Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Levons les voiles, chers auditorices, c'est l'heure du départ pour un bon bol d'air frais. Notre destination, l'océan Austral bordant l'Antarctique. Vous aurez beau imaginer des espaces vastes et peu fréquentés, là-bas aussi, les impacts des activités humaines se font ressentir. Pour cette nouvelle émission du Labo des Savoirs, laissez-vous guider par des scientifiques qui cherchent à comprendre le fonctionnement d'écosystèmes fragiles avant que ceux-ci ne soient profondément bouleversés. Ces espaces sont aussi peuplés d'une quantité extraordinaire d'espèces. Trois d'entre elles seront au cœur de nos discussions aujourd'hui. Notre invité les a étudiées de près durant son doctorat afin de mieux comprendre leurs tactiques de chasse. Bonjour à vous, Mathilde Chevalet.
Bonjour.
Vous êtes écologue et vulgarisatrice scientifique. Nous aurons le plaisir de discuter de vos travaux de thèse sur les relations entre proies et prédateurs. Ces travaux ont été menés au CEBC, le Centre d'études biologiques de Chizé, une unité mixte CNRS et Université La Rochelle. Cette émission a été préparée sur une idée originale du groupe jeune LPO 44, la Ligue de protection des oiseaux. Nous entendrons également Victor.
Bonjour.
Pour un portrait de l'extraordinaire Anita Conti, pionnière dans son domaine, je garde un peu de mystère. Et Solène.
Bonjour.
Bonjour Solène, bénévole du groupe jeune LPO 44 pour une première chronique, et peut-être pas la dernière, au labo. On va creuser avec toi ce qui se cache derrière nos scénarios de chasse dans les documentaires animaliers. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs.
Le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur les ondes et en podcast.
Alors nous partons aujourd'hui pour un voyage lointain en votre compagnie, Mathilde Chevalet. Notre destination, je l'ai dit, c'est l'océan Austral. Vous avez eu la chance de vous y rendre pour vos études de terrain. Alors avant que l'on s'intéresse aux protagonistes de vos travaux, nous allons un peu poser le panorama. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les paysages que vous avez pu voir? À quoi ça ressemble tant sur Terre que sous l'eau?
Alors l'océan Austral, c'est l'océan qui va border le continent Antarctique. C'est un océan qui est assez hostile. C'est un océan où la météo va être toujours capricieuse. Il va y avoir beaucoup de vent, des grosses vagues. Et donc il va abriter aussi pas mal de petites îles qui sont distribuées un peu partout autour du continent. Donc c'est des îles qui sont volcaniques, qui sont pareil, très hostiles aussi, avec très peu de végétation, des côtes très abruptes, des plages de sable noir, voilà, des grosses falaises, etc. Donc c'est globalement un environnement qui est assez hostile. On a l'impression d'être un peu sur une autre planète quand on est là-bas.
Dans ma tête, et j'imagine dans le cas aussi de celles et ceux qui nous écoutent, Antarctique égale froid. Est-ce que c'est aussi un endroit particulièrement froid?
Oui. L'océan Austral, c'est un des océans les plus froids de la planète. Alors, effectivement, sur le continent Antarctique, on a les températures les plus froides de la planète. Et dès qu'on s'éloigne un peu du continent, on va avoir un peu moins froid, mais on reste quand même dans des températures qui sont très, très basses, qui ne vont pas dépasser les 5 à 10 degrés en été, et plutôt autour des moins 10, moins 15, moins 20 en hiver.
Et donc, votre travail, lui, il porte sur trois espèces: l'éléphant de mer, l'otarie à fourrure et le manchot royal, si je ne dis pas de bêtises. Alors, pourquoi celle-ci?
Alors, on a travaillé sur ces trois espèces pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est les principales espèces de prédateurs qu'on va trouver dans cet océan. Ils sont assez abondants. On les retrouve un peu partout au niveau de l'océan Austral. En plus de ça, c'est trois prédateurs qui vont se nourrir du même type de proie. Ils vont manger ce qu'on appelle des poissons lanternes. Donc, ils sont des espèces de petites sardines lumineuses, en gros. Et ces poissons lanternes, ils sont ultra abondants dans tous les océans, et en particulier dans l'océan Austral. Et ils vont jouer un rôle majeur dans son fonctionnement. Et donc, étudier les prédateurs de ces poissons, ça nous permet un peu de mieux comprendre comment est-ce que cet océan si particulier fonctionne.
Alors, quand vous dites rôle majeur, est-ce que c'est justement en étant source de nourriture? Est-ce qu'ils vont jouer un des rôles peut-être aussi dans des équilibres d'énergie dans l'océan?
Oui, c'est un peu tout ça. C'est vrai que au départ, c'est la proie principale de quasiment tous les prédateurs des océans, pas seulement dans l'océan austral. En plus de ça, donc, comme ils sont extrêmement abondants, ils vont jouer un rôle aussi dans le stockage du carbone. En gros, ils vont faire ce qu'on appelle des migrations verticales. Ils vont remonter en surface la nuit pour s'alimenter et redescendre en profondeur la journée pour se cacher des prédateurs. Et en faisant ça, en fait, ils vont permettre d'emmener le carbone de la surface vers les écosystèmes profonds. Et donc, ils vont jouer un rôle dans tout ce qui est régulation du climat.
Ok, ce carbone, très concrètement, c'est lié à leur déjection, c'est ça, ou à leur...
Oui, c'est ça, exactement. En fait, ils vont s'alimenter en surface et ils vont ensuite redescendre, faire caca, etc. Et donc, ils vont pouvoir stocker le carbone dans l'océan profond.
Et pour revenir aux trois espèces prédatrices, est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait express, peut-être de chacune, qu'on sache un peu à quoi elles ressemblent?
Oui, alors on va commencer peut-être par l'éléphant de mer, je pense que c'est le plus impressionnant. L'éléphant de mer, c'est le plus gros des phoques de la planète. Il peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long pour les plus gros mâles et peser plus de 3 tonnes. Donc c'est vraiment un animal de très très grande taille. On le reconnaît avec son espèce de gros nez qui ressemble un peu à une trompe, d'où son nom d'ailleurs. Donc c'est un très très gros phoque. C'est aussi un des meilleurs plongeurs de la planète. Il est capable de descendre à quasiment 2000 mètres de profondeur. Donc pour un animal qui chasse en apnée, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, c'est un peu l'animal de tous les records. Ensuite, on a l'otarie à fourrure. Donc l'otarie à fourrure, c'est une proche cousine de l'éléphant de mer. Mais elle donc est beaucoup plus petite, hein, ça mesure plutôt entre 1,50 m et 2 m, une petite otarie, pour un poids qui varie entre 50 kg pour les petites femelles et jusqu'à 150-200 kg pour les plus gros mâles. Et ensuite, on va avoir le manchot royal. Donc, le manchot royal, c'est un oiseau marin qui ne peut pas voler, hein, comme tous les manchots. On connaît surtout son cousin, qui est le manchot empereur, qu'on voit dans tous les documentaires sur l'Antarctique. Donc c'est un manchot qui ressemble assez fortement au manchot empereur. On le reconnaît avec son espèce de tache orangée sur le cou. Et donc c'est le deuxième plus grand manchot de la planète. Il peut mesurer jusqu'à 1 mètre de haut.
Merci beaucoup pour ces descriptions. Je pense qu'on arrive déjà un peu mieux à visualiser avec qui on va passer l'heure qui vient. Donc vous nous l'avez dit, vous êtes intéressé aux interactions entre ces prédateurs et leurs proies. Et donc pour cela, vous avez utilisé de précieuses balises. Est-ce que c'est une approche récente dans votre milieu?
Alors ça fait pas mal de temps qu'on utilise des balises pour étudier les animaux, et notamment pour étudier les animaux marins ou les animaux qu'on ne peut pas suivre en permanence pour les observer directement. Après, c'est une technologie qui est quand même assez récente. Je pense que ça fait à peu près 20 ans qu'on utilise des balises. Mais au départ, on utilisait des balises qui étaient vraiment très très simples, hein, avec très peu de capteurs dessus. Et petit à petit, avec l'avancée de la technologie, on a pu ajouter différents capteurs et enregistrer des informations qui sont de plus en plus précises et sur de plus en plus de paramètres. Et donc maintenant, on arrive à enregistrer, en gros, on peut savoir tout ce que les animaux font quand ils sont en mer, donc quand ils sont dans des endroits où nous, on ne peut pas les observer directement.
Donc, est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il y avait des informations auxquelles vous n'aviez pas forcément accès auparavant, et là, avec tous ces nouveaux capteurs et ces avancées, vous pouvez maintenant exploiter peut-être de nouvelles données?
Oui, c'est ça. Ben, donc, je ne l'ai pas précisé, mais c'est les trois prédateurs qu'on a étudiés, c'est des prédateurs plongeurs. Ça veut dire qu'ils vont plonger sous l'eau pour attraper leur proie et pour se nourrir. Et donc, quand ils sont sous l'eau, ben, nous, on ne peut pas les observer. Et donc, on met des capteurs sur ces animaux pour essayer de voir un peu ce qu'ils font quand ils sont en mer. Et donc, ça fait longtemps que, par exemple, on peut savoir où est-ce qu'ils vont avec des GPS, à quelle profondeur ils plongent. Mais... voilà, jusqu'à assez récemment, on était pas mal limité à ces deux informations. Et donc, maintenant, on arrive par exemple à enregistrer leurs mouvements, donc un peu comme des petites montres connectées qui enregistrent le nombre de pas, qui enregistrent à quelle vitesse on court. En fait, on met la même chose sur les animaux, qui vont permettre d'enregistrer tous les mouvements que font les animaux de façon super précise. Hein. On peut enregistrer jusqu'à 200 informations par seconde, par exemple. Donc, on peut vraiment reconstituer l'intégralité du comportement du prédateur à la seconde près. Et avec les nouveaux capteurs, maintenant, on peut aussi enregistrer ce qui se passe autour du prédateur. Donc, pas seulement son comportement, mais aussi son environnement. Donc, ça peut être son environnement physique. Donc, par exemple, la température de l'eau, la quantité d'oxygène, la quantité de lumière. On peut aussi enregistrer le son. Donc, en fait, on leur met des micros, tout simplement, pour enregistrer, par exemple, la vitesse du vent, la force des vagues, etc. Et on peut aussi enregistrer leur environnement biologique, donc tous les autres organismes un peu qui sont autour d'eux, en mettant soit des caméras donc qui vont permettre de filmer vraiment tout ce que le prédateur voit, ou soit d'autres instruments un peu plus techniques. Et c'est notamment celui que j'ai utilisé pendant ma thèse, c'est un sonar. Donc en fait, comme les sonars des bateaux, qui va un peu scanner ce qu'il y a devant lui, ça va envoyer un son qui va se réfléchir sur tous les objets qui passent. Et donc on va pouvoir avoir une espèce d'image de tout ce qui est passé devant le prédateur, même quand il fait tout noir et donc quand les caméras peuvent pas fonctionner. Et donc ça, c'est une balise qui est super récente, qui date de, je pense, 5-6 ans, et qui a été déployée pour la première fois sur les éléphants de mer, les otaries et les manchots dans le cadre de ma thèse.
Donc vous l'avez dit, vous cherchez à comprendre le comportement de ces espèces. Et donc, vous m'avez dit en préparant l'émission que vos travaux rentraient dans le champ de l'écologie comportementale. Donc en quoi ça se distingue de l'écologie entre guillemets tout court, ou même de l'éthologie? Parfois quand on cherche un peu à comprendre le comportement, on parle de cette discipline. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors l'éthologie, c'est ça, c'est l'étude du comportement des animaux en général. Et quand on parle d'écologie comportementale, en fait, on précise un peu le mot éthologie. Mmh. En fait, on étudie la façon dont les animaux vont se comporter dans leur environnement. Donc en fait, on rajoute la composante environnement. Et du coup, l'idée, c'est d'un peu de comprendre pourquoi les animaux se comportent comme ça. Et aussi, comment la façon dont ils vont se comporter va leur permettre de survivre et de se reproduire dans leur environnement. Donc, on intègre un peu tout ça, et on intègre aussi une composante évolutive pour justement voir quels comportements sont sélectionnés et pourquoi certains sont sélectionnés, pourquoi d'autres ne sont pas.
Alors, avant de vous poser la prochaine question, je vous propose un extrait d'une vidéo diffusée par le compte EcoTalks sur Instagram début mars.
Les baleines de l'Antarctique pourraient être affamées à cause de ces compléments alimentaires.
Vous avez peut-être déjà vu ces produits anti-âge, on les voit partout en ce moment. Ils contiennent de l'huile de krill.
Un petit crustacé translucide, quasiment invisible, mais pourtant essentiel à l'équilibre de l'océan austral. Le krill est à la base de toute la chaîne alimentaire antarctique. Baleines à bosse, phoques, manchots d'Adélie, tous en dépendent pour se nourrir. Sans krill, tout l'écosystème s'effondre.
De gigantesques navires usines, parfois longs de plus de 160 mètres, aspirent le krill en continu grâce à d'immenses pompes. Et cette exploitation ne concerne pas seulement les compléments alimentaires.
Le krill est aussi transformant en farine pour nourrir nos animaux domestiques ou encore les saumons d'élevage.
Alors, on vient d'entendre un extrait donc, qui dénonce certains effets de la pêche. Donc, comme on l'a dit en introduction de l'émission, cette zone, elle a beau être lointaine, il y a des effets qui commencent à se faire ressentir. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à vous intéresser à cette zone géographique?
Oui, en partie. Alors, il y a déjà, c'est une des zones de la planète qui est la plus touchée par le changement climatique. Hein. Les pôles, de manière générale, sont les zones qui vont se réchauffer le plus vite. Et en plus de ça, effectivement, on peut rajouter toute la composante humaine, où on va avoir en fait de plus en plus d'activités humaines dans ces zones qui étaient jusque-là assez préservées parce qu'elles sont loin, elles sont difficiles d'accès. Donc, on va avoir du tourisme de plus en plus, donc du dérangement. Et on va avoir aussi de la pêche, notamment la pêche au krill ou la pêche aux poissons, et notamment les poissons lanternes dont je parlais au tout début, qui sont une des seules, on va dire, ressources disponibles encore pour la pêche commerciale, et donc qui sont de plus en plus intéressants pour la pêche industrielle. Et donc, pour l'instant, ils ne sont pas tout à fait ciblés, mais on imagine que dans le futur, ils vont l'être de plus en plus. Et donc, on a besoin de comprendre comment l'océan austral fonctionne si on veut essayer de le protéger, essayer de mettre en place des mesures de protection qui soient efficaces pour anticiper justement ce genre d'activités qui seront de plus en plus présentes dans ces écosystèmes.
Très bien, c'est sur cette réponse que je vous propose de faire une petite pause. On reviendra sur tous ces enjeux de conservation des milieux naturels en fin d'émission. On va maintenant écouter Capillary Waves de Flock.
We'll be right back. son des sciences.
Au Labo des Savoirs.
Nous sommes de retour en plateau avec Mathilde Chevalet, écologue et vulgarisatrice. Nous évoquons aujourd'hui vos travaux de thèse menés au CEBC, le Centre d'études biologiques de Chizé, unité mixte CNRS et Université de La Rochelle. Alors, on l'a décrit en première partie d'émission un peu l'environnement dans lequel s'intégraient vos travaux. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails et peut-être décrire à quoi correspond cet environnement de vie et de chasse pour les espèces étudiées? En fait, quelles en sont les spécificités?
Oui, alors, donc c'est des animaux qui plongent dans des profondeurs assez élevées pour chasser leur proie. Je disais jusqu'à 2000 mètres pour les éléphants de mer, à peu près 200 à 300 mètres pour les manchots et un peu moins pour les otaries, autour de 50 à 100 mètres. Donc à ces profondeurs-là, déjà il fait extrêmement froid dans l'océan Austral et en plus il fait tout noir. Donc ça, c'est un premier souci pour nos prédateurs parce que on a du mal à, ils ont du mal en fait à localiser leur proie, et donc c'est des environnements qui sont assez techniques pour eux parce que ils sont dans le noir, ils sont dans des endroits où il fait très froid et dans des profondeurs qui sont assez importantes.
Très bien, donc cet univers sauvage et vaste peut nous faire penser à certains documentaires animaliers. Donc ces programmes façonnent notre vision que l'on a des relations entre proie et prédateur. Solène, tu as remarqué que l'on tombe très souvent dans l'opposition manichéenne du vilain prédateur et de la pauvre, innocente proie. Et cela ne te semble pas anodin?
Oui, en effet, pensez par exemple aux voix off et aux autres montages dramaturgiques des documentaires animaliers qu'on voit régulièrement. Souvent, elles orientent notre jugement et elles hiérarchisent les légitimités de chaque espèce à assouvir ses besoins vitaux. Et je m'inclus largement dans ce constat, croyez-le bien. Je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai vécue très récemment lors du visionnage d'un documentaire avec des amis. Il était clair que, lors de ce visionnage, la maman guépard qu'on voyait à l'écran était moins légitime aux yeux du public que sa congénère zèbre à assouvir son rôle de nourricière auprès de ses petits. En effet, le besoin de Madame Guépard induisait dans ce cas-là la prédation d'un zébron compte tenu du régime alimentaire de l'espèce, et le zébron représente de plus une opportunité plus avantageuse pour le guépard puisqu'il est plus maladroit, plus lent que les adultes. Cette prédation était par ailleurs lourdement scénarisée à coups de ralentis, de musique haletante et d'autres gros plans sur le regard de la mère zèbre paniquée. Tout cela pour rendre la séquence plus épique et tragique encore pour nous, spectateurs. Là-dessus, nous avons discuté avec mes amis dans un premier temps de la hiérarchie que nous mettons entre les espèces et qui a déjà été en partie expliquée par la ressemblance. C'est ce qu'expose notamment une étude publiée dans la revue Nature en 2019, menée par un groupe de chercheurs de l'Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité et de l'ISEM. Donc c'est des structures qui sont en lien avec le CNRS et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et il existe plein d'autres ressources qui expliquent ce phénomène pour les plus curieux d'entre vous.
Ok, donc si je comprends bien, nous éprouvons davantage d'empathie pour ce qui nous ressemble.
Tout à fait. C'est pour ça que c'est plus aisé pour nous d'avoir de l'empathie pour un mammifère ou pour des groupes taxonomiques dont on partage les codes sociaux, par exemple les oiseaux, qui ont également des comportements qui ressemblent aux nôtres. Et en effet, lors du visionnage, ça s'est traduit à plusieurs reprises. Dans un premier temps, vis-à-vis des prédateurs, j'ai une amie dont la réaction a été sans équivoque à propos du crocodile. Il suscitait vraiment peu d'empathie, beaucoup moins que celle suscitée par le guépard dans son rôle de prédateur, et le facteur, c'est le délit de non-ressemblance du cruel reptile aux mœurs aquatiques. Et une seconde fois, vis-à-vis des proies, avec une réaction qui était un petit peu plus partagée cette fois-ci. Au départ, il y avait une empathie collectivement moins prononcée pour le petit gnou que pour le zébron, et celle-ci a été nuancée par une seconde amie qui est également une jeune maman. Pour elle, toutes les prédations de bébés étaient à proscrire. Pourquoi diable les prédateurs ne jettent-ils pas leur dévolu sur les vieilles carnes en fin de vie et en queue de peloton? Cette fois, le facteur, vous l'aurez compris, c'est la reconnaissance, l'identification et l'empathie pour un schéma de vie qu'elles partagent. Mais si on revient à la réaction première, à savoir zébron supérieur à jeune gnou dans notre système de valeurs, cette fois-ci, peut-être que c'est encore un autre mécanisme qui s'active, le spécisme. Ce mot est utilisé comme un concept. À partir des années 70, il a été popularisé par Peter Singer en 75 dans son ouvrage « La libération animale ». Aujourd'hui, il est largement utilisé, on l'entend un peu à toutes les sauces, mais dans le sens où on l'entend sur cette émission, il permet notamment de désigner une inégale considération d'intérêt des espèces, qui revient souvent à privilégier celles et ceux qui nous ressemblent. Le gnou ressemble à une vache, tandis que le zèbre ressemble à notre cheval. Si l'un est élevé pour notre consommation, et donc considéré depuis des lustres comme une ressource, plus ou autant qu'un animal, l'autre est assimilé à une pratique de loisir, récréative, voire même à une compagnie. On se souvient des émois suscités par le scandale de viande de cheval dans les places Indus dans les années 2013, mais aussi toutes les thérapies animales que l'on peut voir se développer. Et n'est-ce pas ce rapprochement inconscient qui nous pousse du coup, devant un documentaire, à considérer davantage justifier la prédation d'un gnou, qui est donc une espèce ressource, que celle d'un zèbre, qui est une espèce socialement plus considérée?
Ok, alors mais qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces constats? Quelles sont les conséquences finalement de cette vision que nous on projette sur la faune?
Eh bien justement, c'est pas anodin, puisque la façon dont nous estimons différemment les espèces, ça impacte directement l'énergie et les moyens déployés pour les préserver. Par moyens, j'entends moyens matériels et financiers. Les conséquences sont d'autant plus importantes dans le contexte actuel de perte massive de biodiversité. Je pense notamment récemment aux pubs WWF qui avaient mis en scène des animaux avec des masques de panda pour nous sensibiliser à ça. Mais une grande partie du mythe de l'innocente proie prédatée par le vil carnassier peut être déconstruite par une prise de conscience de nos biais de jugement. Questionner notre regard peut permettre une meilleure prise en compte et une meilleure protection de l'ensemble des espèces du vivant à leur juste et égale valeur. Cela dans un but de sauvegarde de la chaîne alimentaire tout entière et de la biodiversité. Mais il n'en demeure pas moins que la façon dont ces relations interespèces nous sont présentées façonne énormément nos visions. Si nous voulons enclencher un changement dans notre considération pour la faune, cela passera aussi et surtout par une éducation. Et aujourd'hui, elle est fortement dispensée par les contenus audiovisuels. Donc en conclusion, peut-être qu'il est temps, chers producteurs, vidéastes, créateurs de contenu qui nous écoutez, de revoir les récits dispensés afin de rendre à la faune sauvage sa vérité. Celle d'un équilibre qui n'existerait probablement pas sans les interdépendances alimentaires. Celle d'espèces qui ont toute leur place dans les écosystèmes. Bon, sauf peut-être l'homme parfois. À méditer.
Merci beaucoup Solène. Est-ce que Mathilde, vous souhaitez réagir ?
Bah, c'est vrai que moi, j'ai fait partie des gens qui regardaient beaucoup, beaucoup de documentaires animaliers quand j'étais petite. Et c'est vrai que c'est toujours très, très, très romancé. Hein. C'est toujours dramatique dans les documentaires animaliers. Et j'imagine que c'est pour susciter des réactions chez les gens qui regardent. Et c'est vrai que quand on regarde des scènes de prédateurs qui attaquent des petits animaux, on a toujours de la peine pour le petit animal. Et jamais quand le prédateur n'arrive pas à attraper sa proie. Alors qu'au final, ça se trouve, ces petits vont mourir parce qu'il n'aura pas réussi à chasser. Mais c'est vrai ça que je me reconnais un peu dans tout ça, malheureusement. Alors maintenant, j'essaie de faire un peu attention. mais c'est vrai que je pense qu'il y a toujours ce jeu de tout dramatiser dans les documentaires animaliers.
Alors justement, votre travail se distingue de d'autres par votre approche. Vous cherchez à créer un lien entre les capacités sensorielles et physiques des individus, et donc pas uniquement à quel point ils ont l'air impressionnants ou méchants, et leur stratégie de chasse. Comment concrètement est-ce qu'on s'y prend déjà pour évaluer les capacités sensorielles? On a parlé d'animaux qui vont jusqu'à 1000 mètres de profondeur, qui font plusieurs tonnes. Enfin, c'est quand même très éloigné de ce que nous, j'imagine, on peut se projeter.
Oui, alors on a choisi de s'intéresser surtout aux capacités sensorielles parce qu'en fait c'est un peu ça qui va définir comment va se passer l'interaction entre un prédateur et sa proie. En gros, une interaction prédateur-proie, c'est une sorte de séquence avec plusieurs comportements, donc qui va commencer par la détection de la proie, puis l'approche, puis la capture, etc. Et donc le départ de cette interaction, c'est le moment où le prédateur va détecter sa proie. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse aux capacités sensorielles. Sauf que, effectivement, étudier les capacités sensorielles des animaux, c'est pas si évident que ça, parce qu'ils peuvent pas juste nous dire « Ok, là j'entends, là j'entends pas, là je vois, là je vois pas ». Et donc c'est un peu difficile, et donc c'est quelque chose qu'on connaît assez peu, surtout sur des animaux sauvages. Donc on a plusieurs façons d'étudier les capacités sensorielles des animaux. On peut déjà, en fait, tout simplement faire des dissections sur des animaux qu'on retrouve morts pour étudier en fait la structure de leurs organes sensoriels. Par exemple, la structure de l'œil, la structure de leur appareil auditif. Ce qui nous permet un peu de dire, bon là, vu cette structure, ça veut dire qu'ils peuvent voir ou entendre ou sentir ce genre de stimulus. Mmh. Une autre façon, c'est de travailler sur des animaux en captivité. Là, c'est vraiment le plus facile, entre guillemets, parce qu'on va pouvoir, en fait, par exemple, leur masquer un sens et voir comment est-ce qu'ils réagissent à différents stimuli. Par exemple, en leur mettant un bandeau sur les yeux, voir s'ils arrivent à se repérer dans leur environnement. Mais ça, on ne peut pas le faire sur tous les animaux. Et surtout sur les animaux sur lesquels il est travaillé, parce que on n'en a pas en captivité ou très peu. Et donc il a fallu trouver petite astuce pour justement étudier leur capacité sensorielle. Alors ce que nous on a regardé, c'est en fait on a regardé leur capacité sensorielle en termes de comportement. En fait, on regarde comment est-ce que les prédateurs vont se comporter à l'approche de leur proie. L'idée, c'est que quand le prédateur détecte sa proie, normalement, il devrait modifier légèrement sa trajectoire pour aller s'orienter vers sa proie. Et donc, l'idée, c'était de se dire, OK, le moment où il va justement changer cette trajectoire, c'est le moment où il a détecté sa proie. Bon, c'était une façon de voir les choses. C'était la seule façon qu'on pouvait utiliser dans notre cas. Et donc, comme on a le mouvement du prédateur de façon super précise, on arrive justement à estimer ce moment où il détecte leur proie. Et donc, on arrive à avoir une meilleure idée des capacités sensorielles de nos prédateurs quand ils sont sous l'eau.
D'accord, donc vous arrivez un peu à estimer en termes de seuil.
À quel point est-ce que c'est détecté
finalement?
Exactement, ouais. On essaye de se dire à peu près à quelle distance ils arrivent à détecter leur proie. On sait pas vraiment, on ne peut pas vraiment savoir quel sens ils vont utiliser, même si on a une idée assez vague en les regardant, justement, en regardant leur morphologie. Mais on essaye juste d'avoir une idée à peu près de à quelle distance ils arrivent à détecter ces proies.
Très bien, donc j'imagine que finalement, tout à l'heure vous nous parliez justement de ces balises. Donc finalement, votre travail, c'est beaucoup d'exploiter les données récoltées par ces balises.
Oui, c'est même 100% de mon travail. Ça va être de traduire ce que les balises ont enregistré en quelque chose qui veut dire quelque chose pour nous. Et donc, en fait, de traduire les données enregistrées en un comportement de l'animal. Et ensuite, qu'est-ce que ce comportement implique, etc.
Ok, j'imagine que ce n'est pas si simple.
Non, c'est même assez difficile. Parce que on les voit pas, ces animaux. Donc en fait, on a des signaux enregistrés par des balises qui sont souvent des chiffres un peu compliqués. C'est pas directement, la balise nous dit pas directement là il tourne à droite, là il tourne à gauche, là il est sur le dos, là il est sur le ventre. Elle nous donne vraiment des chiffres qu'il faut un peu déchiffrer justement. Et comme on n'a pas la vidéo de l'animal en même temps, en fait, faut un peu déduire des choses des fois. Donc c'est pas forcément évident, et ça représente une quantité de données qui est énorme. On enregistre pendant plusieurs semaines en général. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait monter à 200 informations par seconde, donc ça fait beaucoup, 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 beaucoup de chiffres. Et donc, tout mon travail, c'était d'essayer de résumer ces chiffres et de traduire ça en un comportement de l'animal.
Pour en revenir justement à des choses plus concrètes, quels sont les liens que vous avez pu observer entre les sens de ces animaux et leur tactique de chasse?
Alors, ce qu'on a vu, c'est que nos trois prédateurs ne vont pas du tout détecter leur proie au même moment. On a les otaries et les manchots qui vont détecter leur proie un peu au dernier moment, dans les 1 à 2 mètres avant la capture. Donc, alors que les éléphants de mer, eux, ils vont détecter leur proie vraiment bien en avance, donc environ 10-15 mètres de la proie. Et donc ça a une conséquence majeure, c'est que les manchots et les otaries vont devoir réagir très vite pour capturer la proie, alors que l'éléphant de mer, lui, il a le temps de gérer son approche parce qu'il a 10-15 mètres devant lui pour ajuster son approche, pour essayer de faire en sorte de pas faire fuir la proie. Et donc ça implique qu'on va avoir deux types de comportements qui seront très différents entre l'éléphant de mer qui a le temps de s'ajuster et les otaries et les manchots qui, eux, vont devoir réagir au dernier moment.
Et ces stratégies, elles sont homogènes d'un individu à l'autre au sein d'une même espèce? Est-ce qu'on peut observer des variations?
On a globalement, niveau distance de détection, on est à peu près pareil chez tous les individus, en sachant qu'on fait des estimations qui sont quand même assez, assez vagues. On ne va pas vraiment dans le détail, parce qu'on n'est pas capable d'être vraiment sûr de ce qu'on enregistre. Et ensuite, on a des petites différences quand même entre individus, notamment au niveau de l'approche de la proie. On a des individus qui vont se comporter un peu différemment. Alors, on ne sait pas trop d'où ces différences viennent et ce qu'elles impliquent aussi. Mais globalement, on a des types de comportements qui sont assez homogènes au sein de l'espèce. Et ensuite, on va avoir des petites variations entre individus. Par exemple, on avait une femelle éléphant de mer qui systématiquement faisait une espèce de looping autour de ses proies. C'était la seule à faire ça. On n'a aucune idée de pourquoi elle le fait. Et comment ça se fait qu'elle est, enfin comment elle a appris à faire ça, en fait, on ne sait pas. C'était la seule à le faire. Il se trouve que c'est celle qui a gagné le plus de poids pendant son trajet alimentaire, donc probablement qui était la meilleure chasseuse. Mais voilà, voilà. Ensuite, on ne sait pas. Voilà, on peut pas savoir non plus qu'est-ce qui se passe vraiment, quoi.
Bravo à elle. Et du coup, justement, vous parliez d'apprendre. Est-ce que c'est peut-être un peu trop spéculatif, mais est-ce qu'il y a des transmissions entre individus? Est-ce qu'on sait un peu comment ils sont acquis, ces comportements?
Alors, on ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a assez peu de... Il n'y a même pas du tout, en fait, de transmission entre individus. En tout cas, au moins chez les éléphants de mer et chez les otaries. C'est des animaux qui vont être sevrés assez rapidement, donc ils vont quitter leurs parents assez rapidement. Et en fait, il n'y a aucun moment où le petit va chasser avec sa mère, par exemple. Le petit va rester sur la terre jusqu'à son sevrage. Il va pas du tout aller en mer au début. Et c'est une fois que sa mère le laisse, en fait, qu'il va aller explorer la mer et essayer d'aller chasser par lui-même. Donc, il n'y a pas de transmission directe entre la mère et le petit. Et donc, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'ils apprennent. On pense que c'est de l'essai-erreur. En fait, ils y vont. Ils essayent, ils voient ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ils s'ajustent. Donc c'est probablement plutôt un rôle de l'expérience, plutôt que vraiment une transmission d'un individu à l'autre, quoi.
Et du coup, est-ce que ce serait possible d'imaginer que l'individu dont tu parles, qui fait des loopings systématiquement autour de ses proies, elle les fait un jour par hasard, par mauvaise trajectoire, et qu'elle ait remarqué que ses proies, je ne sais pas, sont un peu confuses s'il y a un mouvement d'eau autour d'elle, et qu'elle le fait systématiquement parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle arrivait plus facilement à attraper ensuite la proie?
C'est possible, ouais. Comme... Voilà, on peut pas suivre les individus sur plusieurs années, donc on peut pas en fait savoir comment est-ce que ce comportement il se répète vraiment sur le long terme, comment est-ce qu'il est apparu. Pour l'instant, on n'arrive pas à le faire, donc on peut que imaginer, mais c'est probable qu'elle ait essayé ça à un moment. Pourquoi, je ne sais pas. Et elle a vu que ça marchait, et donc c'est un comportement qu'elle a répété par la suite, quoi.
On a du coup beaucoup fait le lien avec les capacités sensorimotrices des animaux, mais vous nous avez dit aussi que ces balises pouvaient mesurer la température, la quantité d'air, etc. Et donc finalement tout un tas de paramètres environnementaux. Est-ce qu'il y a aussi donc des paramètres qui vont jouer sur les tactiques de chasse?
Ouais, alors ce qu'on a regardé dans un deuxième temps, effectivement, c'était le lien entre le comportement du prédateur et l'environnement. On a surtout regardé au niveau de la température, parce que c'est un paramètre qu'on a assez facilement, soit avec les balises, soit avec des modèles météo, en fait. Et donc, on a regardé justement comment est-ce que la température va influencer le comportement du prédateur. Alors, ce qu'on a vu, c'est que quand l'eau est plus chaude, les prédateurs vont changer un peu de zone de chasse. Ils vont avoir tendance à chasser plus profondément. En fait, ils vont tout simplement suivre leur proie qui préfère les eaux froides. Et donc, ils vont se réfugier dans des eaux plus froides. Et donc, les prédateurs doivent les suivre. Et ça pose des soucis parce que c'est des animaux qui chassent en apnée, ils ne sont pas illimités au niveau du temps de plongée. Et donc, chasser plus profondément, ça implique rester en apnée plus longtemps, dépenser plus d'énergie. Et donc, on a certains individus probablement qui n'arriveront pas à suivre ces proies si les températures continuent à augmenter. Ce qu'on a vu aussi, c'est que quand l'eau est plus chaude, les proies vont avoir tendance à être un peu plus actives et donc potentiellement plus difficiles à chasser. Elles auront tendance à réagir plus tôt quand un prédateur s'approche. Et donc, pour certains prédateurs, comme par exemple l'éléphant de mer, qui est quand même un gros animal assez lent, ça peut être assez difficile de chasser des proies qui sont plus actives. Ce qu'on a essayé de comprendre, c'est justement comment est-ce que les conditions environnementales vont impacter nos prédateurs en fonction de leur capacité à eux.
Je propose qu'on se retrouve après une pause musicale, le temps de faire chuter un peu la pression. C'était Sea of Sound de Beatfarmer et nous sommes de retour en plateau avec Mathilde Chevalet, écologue et vulgarisatrice scientifique. Alors, on l'a vu, il y a cette idée reçue que la chasse, c'est un comportement un peu instinctif, comme dans la savane, où le lion va aller sur sa proie. Et vous avez cherché à l'expliquer à travers les capacités sensorimotrices des individus qui la pratiquent. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une activité qui est gourmande en énergie. Et donc, vous évoquez dans votre thèse plusieurs travaux qui cherchent à modéliser la chasse sous un point de vue énergétique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors, c'est ça. Nous, on a regardé les interactions d'un point de vue vraiment purement comportemental. Comment est-ce qu'ils interagissent ? Et effectivement, pour aller un peu plus loin, l'idée, c'est de traduire tout ça d'un point de vue énergie. En gros, tous les comportements, ils peuvent se traduire en un gain énergétique et une perte d'énergie. Et quand on mange, quand on chasse, on va d'abord dépenser de l'énergie, hein, déjà à trouver la nourriture, à mastiquer, la digérer, la capturer, etc. Et on va aussi en gagner parce qu'on aura ingéré l'énergie. En général, ce qu'on dit, c'est que les comportements animaux vont être sélectionnés pour atteindre une espèce d'équilibre qu'on appelle la balance énergétique. En gros, l'objectif, ça va être de dépenser autant d'énergie qu'on en ingère, ou au mieux, dépenser moins d'énergie qu'on en ingère, mais jamais plus. Si on dépense trop d'énergie, on va déséquilibrer cette balance, et tout ça, ça va se répercuter sur la vie de l'animal, hein, qui va du coup avoir moins d'énergie allouée, par exemple, à sa croissance, à sa reproduction, à sa survie, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de traduire justement ces comportements en termes d'énergie, c'est pour comprendre pourquoi tel ou tel comportement existe. Et donc ça, on peut le faire assez facilement avec les données enregistrées par les balises. En gros, avec les balises, on peut estimer, par exemple, les coûts énergétiques liés à la recherche, la poursuite, la capture des proies. Par exemple, en regardant à quelle vitesse les prédateurs vont nager, à quelle fréquence ils vont battre des nageoires, à quelle profondeur ils vont aller pour les chercher. Et on peut aussi estimer les gains qui sont liés à l'ingestion des proies, donc qui vont dépendre, par exemple, de l'espèce de proie ciblée, de sa taille, etc. Donc tout ça, ça demande de faire un peu de calcul, un peu de modélisation. Donc en gros, on va partir de ce qu'on sait et ensuite on va faire des modèles mathématiques pour justement estimer ces gains d'énergie et ces pertes à partir de ce qu'on connaît du fonctionnement de l'organisme. Et donc ça, c'est pas mal intéressant parce que ça nous permet ensuite de voir comment l'évolution des comportements liés aux changements environnementaux et aux changements d'origine humaine vont se répercuter sur la survie de l'animal. Par exemple, est-ce que j'ai évoqué tout à l'heure qu'on a certains prédateurs qui vont devoir aller chasser plus profondément? Est-ce que ça va se traduire par une augmentation significative de la quantité d'énergie dépensée? Et est-ce que ça entraîne ensuite des soucis au niveau fonctionnement global de l'organisme? Donc tout ça va permettre d'aller un peu plus loin pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne et pouvoir mieux anticiper ce qui va se passer avec les changements en cours.
De rendement, il en est question aussi dans le livre « Justice pour l'étoile de mer » coécrit par Marine Calmet, juriste, et François Sarano. Les deux portent leur combat pour la préservation de la nature à travers plusieurs collectifs militants. Je vous propose un court extrait qui est tiré du journal de bord de François Sarano alors qu'il est en observation sur le Saint-Blaise, qui est un chalutier en pêche dans les eaux du golfe de Gascogne. Dans son récit, le filet à mailles de 8 cm et long de 32 mètres vient tout juste d'être hissé à bord.
Alors, le filet dégueule la poiscaille sur le pont. Leurs yeux cherchent avidement les poissons nobles dans l'amoncellement de chair, de vases et de roches. De mon côté, je guette les merlus, sujet de ma thèse de doctorat, avant qu'ils ne soient éviscérés et glacés en fond de cale. À peine la sélection terminée, deux marins, armés de pelles, nettoient le pont. Faire place nette avant l'arrivée de la prochaine levée. Délicatement baptisé Roger, l'amoncellement noirâtre zébré de brillance, agité de pattes, de nageoires, d'yeux globuleux à jamais éteints, de carapaces écrasées, de cordes échiquetées qui tressaillent et poussées à la mer par les dalots. Déjà, le chalut suivant est annoncé et je reprends mes notes. 10 merlus femelles, dont 7 en post-ponte. Note que je peux consulter aujourd'hui, en 2024, 40 ans plus tard. Mais quid des autres vivants? Les oursins, les poulpes, les éponges, les coquillages, les crabes, les toiles de mer. Rien dans mes notes. Rien dans les statistiques de la pêche. Rien. Rien, rien. Leur histoire ne sera jamais racontée. Leur sort ne sera jamais discuté. Leur existence et leur mort ne seront jamais prises en considération.
Merci Julie pour la lecture de cet extrait. Alors comme évoqué en introduction, l'océan Austral est un milieu sensible qui n'est pas épargné par les dégâts liés aux activités humaines. On y a déjà un peu évoqué cette question en première partie d'émission. Alors en quoi est-ce que votre travail peut aider à préserver cet écosystème fragile, Mathilde Chevalet?
Alors tout à l'heure j'ai évoqué le lien entre les conditions environnementales et les comportements de chasse des prédateurs. Donc on a vu que voilà, si les températures continuent à augmenter, on aura probablement des prédateurs qui vont dépenser plus d'énergie, qui vont avoir de plus en plus de mal à capturer leur proie. Mais il n'y a pas que les changements climatiques, il y a aussi tous les changements d'origine humaine, et notamment la pêche qui est de plus en plus intensive, et notamment au niveau de l'océan Austral, hein, qui était jusque-là pas mal préservé. Et donc, s'il y a de la pêche, forcément, il y aura moins de proies, hein, pour les prédateurs. Et donc ça, ça peut poser des soucis aussi pour eux, notamment au niveau de la recherche des proies. Ce qu'on a vu, ce qu'on a mis en évidence pendant ma thèse, c'est que cet impact d'une diminution de la quantité de proies, elle va dépendre des caractéristiques du prédateur. Tout à l'heure, je parlais des capacités sensorielles. Je disais que les éléphants de mer vont détecter leurs proies bien en avance, alors que les manchots et les otaries, ils vont détecter leurs proies un peu au dernier moment. En gros, un prédateur qui va détecter ses proies à de longues distances va se débrouiller mieux dans un environnement où les proies seront plus dispersées qu'un prédateur qui détecte ses proies au dernier moment. En gros, détecter des proies à de longues distances, ça fait qu'on augmente la chance de tomber sur une proie au hasard. Donc les éléphants de mer probablement seront moins impactés par une diminution de la quantité de proies que des prédateurs comme les otaries ou les manchots. Ce genre d'études, ça va justement permettre d'essayer d'anticiper un peu ce qui va se passer et dire, bah voilà, si il y a telle ou telle pression de pêche, ça va impliquer telle ou telle chose sur nos prédateurs. Et ensuite, bon, bah, sur tout le reste de l'écosystème. Et donc, nous, notre travail, ça va être ensuite de guider un peu les politiques de conservation, de dire, bah, voilà, nous, ce qu'on observe, c'est, voilà, il va se passer ça, donc il faudrait faire attention à telle ou telle chose. Et notamment, nous, ce qu'on peut que conseiller, c'est de faire attention à la pression de pêche dans cet océan qui était jusque-là assez préservé, tout ça.
Merci pour ce message d'alerte. Je pense que les personnes qui vont écouter cette émission vont aussi se poser la question et peut-être de l'effet de vos propres recherches sur ces écosystèmes. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de pouvoir un peu évaluer le dérangement? J'imagine que ces balises, elles sont peut-être un peu encombrantes, invasives pour les espèces que vous avez étudiées. Comment ça se passe pour estimer ça?
Alors, ce qu'on fait, c'est que on va pas mettre n'importe quelle balise sur n'importe quel animal. On passe beaucoup de temps à définir des protocoles qui se veulent le moins invasifs possible pour essayer de limiter au maximum le dérangement. C'est vrai que nous, notre objectif, c'est de les protéger. Donc, le but, c'est de pas les déranger. Et donc, on travaille beaucoup avec des comités d'éthique qui vont nous permettre justement d'ajuster nos protocoles. Par exemple, on a des recommandations en termes de poids et de forme de la balise pour qu'elle essaye d'impacter le moins possible l'animal. Ça va créer une force qui va un peu traîner l'animal quand il est sous l'eau, si la balise est trop grosse, par exemple. Donc nous, on travaille, quand on développe des balises, on essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus hydrodynamiques possible, qu'elles soient la plus légère possible et que, voilà, proportionnellement à la taille de l'animal, ce soit le plus faible possible pour minimiser l'impact. Ensuite, quand on commence à déployer des balises qu'on n'avait jamais déployées sur des animaux, on va d'abord regarder est-ce que ces balises vont impacter leur comportement. Donc on va pouvoir comparer différentes tailles de balises, par exemple, voir si on a des modifications de trajet, par exemple, est-ce qu'ils vont passer plus de temps en mer, est-ce qu'ils vont devoir compenser justement ce petit dérangement. Ce qu'on remarque, c'est que quand on suit les recommandations des comités éthiques, globalement, on n'a pas d'impact sur la survie de l'animal à court et à moyen terme. On peut se dire que c'est un dérangement qui est minime, même s'il existe. On va forcément aller leur mettre quelque chose sur la tête, donc c'est quand même un dérangement qui existe. Ce petit dérangement nous permet quand même d'aller ensuite beaucoup mieux comprendre comment ces espèces fonctionnent et donc mettre en place des politiques de conservation qui soient le plus efficaces possible. Donc c'est un genre de compromis à faire entre, voilà, déranger le moins possible, mais en même temps avoir assez d'informations pour pouvoir les aider par la suite.
Les effets des activités humaines sur la vie marine et toutes les questions que cela soulève, il en est aussi question dans les travaux de Anita Conti. Alors Victor, tu nous proposes une escapade artistique dans le monde de la photographie. Et pour cela, tu as choisi cette figure, assez peu connue du grand public, alors qu'elle a pourtant façonné toute une discipline dont elle est une des pionnières.
En effet, Jérémy. Alors avant de commencer, je voulais faire un petit tour de table pour savoir si parmi les personnes présentes ici, vous aviez déjà entendu parler ou non de celle qu'on surnomme la Dame de la Mer.
Alors, du tout. Pour ma part, pas du tout non plus. Ça pourrait être une nageuse de haut niveau.
Une sirène peut-être? Non, je dirais que je connais pas non plus.
Et ben moi non plus, je connaissais pas du tout avant de faire cette chronique et c'est bien dommage. Alors Anita Conti, qui est-ce? Et bien c'est une figure aux multiples facettes. Photographe, relieuse d'art, écrivaine, journaliste, exploratrice. Elle est surtout connue pour être la pionnière de l'océanographie. Mais c'est aussi son engagement écologique qui a marqué sa vie. Elle est aussi l'une des premières à lancer l'alarme sur les dangers de la surpêche et la destruction des océans qui en résultent. Si on se penche sur sa biographie, Anita Conti, née en 1899, a toujours été attirée par la mer. Journaliste, Elle est engagée en 1934 par l'Office scientifique et technique des pêches maritimes. Elle écrit plusieurs articles sur le quotidien des marins, la vie de ces travailleurs de la mer. En 1939, elle embarque sur le chalutier le Viking, où elle passe 3 mois à partager le quotidien des morutiers dans les mers arctiques. Elle y réalise un minutieux travail d'échantillonnage de la biodiversité marine, mais aussi humaine. Au fil de ses voyages, elle devient une véritable ethnologue de cette population que sont les pêcheurs sur les chalutiers. En 1953, elle leur rend hommage avec son livre « Les racleurs d'océan », qui témoigne de la difficulté de cette pratique, tout autant que de la beauté que l'on peut y trouver. Au sein de ses campagnes, elle réalise un travail d'infiltration. Femme parmi cette profession presque exclusivement masculine, elle doit se faire discrète pour s'intégrer à leur vie quotidienne. Et une anecdote que j'aime beaucoup à son sujet, à ceux qui lui disaient qu'elle était un garçon manqué, elle répondait qu'elle était une femme réussie. Mais Anita Conti ne se contente pas d'observer passivement, elle alerte face à des pratiques qu'elle juge nocives pour les écosystèmes. Dès les années 40, elle tire des conclusions alarmantes sur les dangers de la pêche à outrance et l'épuisement des écosystèmes marins. Dans son livre « L'océan, les bêtes et les hommes », elle trace le bilan de ses recherches sur les conséquences de la surexploitation des océans par l'activité de la pêche. Elle s'indigne aussi du gaspillage qui est fait sur les chalutiers, où une grande partie des poissons pêchés, jugés indésirables, sont rejetés morts en mer, alors que tant de personnes souffrent de la faim. Toujours en avance sur son temps, elle est aussi l'une des premières à militer pour l'aquaculture. Le but est d'élever des poissons dans des cages immergées, dans leur milieu naturel, pour nourrir les humains tout en soulageant les écosystèmes.
Et pour finir cette chronique, je crois que tu voulais revenir à l'une des passions d'Anita Conti, la photographie, c'est bien ça?
Exactement. Alors les photographies d'Anita Conti, c'est un véritable témoignage de tranches de vie passées, des hommes et des femmes partageant la soupe dans une cale exiguë, des marins accoudés au bastingage dans l'attente de la prochaine pêche, des regards anxieux qui scrutent l'immensité devant eux. Il y a vraiment quelque chose de fort qui se dégage, on a presque l'impression de sentir l'iode en se plongeant dans ces instantanés en noir et blanc. En 2003, le Fonds d'archives de l'Orient a numérisé et mis en ligne plus de 40 000 photographies d'Anita Conti, réalisées au cours de décennies de voyage. Parmi cette collection fantastique, j'ai choisi une photographie qui m'a particulièrement touché et que j'aimerais partager avec vous. Donc, malheureusement, j'ai que des mots à ma disposition, donc je vais essayer de vous décrire le plus fidèlement possible. Imaginez au centre de la photographie un jeune garçon qui se tient debout sur le pont. Pantalon épais, grosses bottes et béret, il doit à peine avoir 16 ans. Et pourtant, il est là, sur la mer qui s'étend à perte de vue à l'arrière-plan. L'élément qui attire tout de suite l'œil, c'est cet énorme poisson qu'il tient entre ses bras. L'animal, peut-être une morue, est aussi grand que le garçon qui la tient, immense face à ce petit corps fragile. Et pourtant, c'est bien un sourire qui s'étend timidement sur ses lèvres. Première prise, la joie d'effectuer un premier voyage en mer, ou bien le sourire du connaisseur malgré son jeune âge, impossible à savoir. Toujours est-il que le contraste saisissant entre la taille du poisson et celle du marin donne un véritable cachet à cette photographie. Pour finir sur une écaille moins positive, évoquons la myriade de poissons plus petits qui jonchent le pont du bateau. Trop petits pour valoir le coup d'être découpés, salés et stockés, ils seront probablement rejetés à l'eau, morts. Ce gâchis révoltant, dans la pratique de la pêche en chalutier, Anita Conti ne cessera de le dénoncer dans l'œuvre de sa vie, par ses textes mais aussi ses photographies.
Merci beaucoup Victor pour cette chronique. Peut-être que vous voulez réagir Mathilde en nous parlant de la place des femmes dans l'océanographie.
Alors c'est vrai que les femmes ont été pendant longtemps un peu exclues de ce domaine qui était très masculin. C'est moins le cas aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui font de la biologie marine ou de l'océanographie. Un exemple que je peux donner c'est quand on part sur les bases scientifiques dans les îles subantarctiques, jusqu'à assez récemment les femmes étaient interdites là-bas. Donc, il n'y avait vraiment aucune femme qui travaillait sur ces questions. Et maintenant, elles sont autorisées, heureusement. Donc, ça évolue un petit peu. Mais c'est vrai que c'était un domaine qui était quand même assez masculin pendant très longtemps. Oui.
Interdite. Bon, bah, heureusement que la science progresse. Alors, nous avons la chance aussi d'avoir en plateau une femme aux multiples talents. Vous-même, Mathilde Chevalet, puisque vous êtes aussi photographe naturaliste et que vous avez comme activité de mener des actions de vulgarisation auprès de tout public. Où est-ce qu'on peut continuer à suivre votre travail au-delà de cette émission?
Alors, on peut me suivre sur ma page Instagram, avec mon nom, et ma page LinkedIn aussi, pour mes actions de médiation. Oui.
Le rendez-vous est pris. J'ai une dernière question à vous poser. On a beaucoup parlé de prédateurs durant l'émission. Je voulais vous demander, qu'est-ce qu'il faudrait cultiver de la proie en nous?
L'homme, au départ, c'est quand même un prédateur, hein, même s'il y a pas mal de sociétés humaines qui ont une alimentation plutôt omnivore, voire végétarienne. L'homme a quand même globalement, historiquement, toujours chassé. Il s'est nourri pas mal de, surtout de gros animaux, grâce notamment au développement d'outils, au développement de la technologie qui a fait qu'on peut chasser à peu près tout ce qu'on veut, malheureusement. Ce qui nous a un peu placé d'office au sommet de la chaîne alimentaire en tant que super prédateur. Malheureusement, ça fait qu'on est un peu, on a un peu l'idée d'être invincible. Mais bon, il ne faudrait pas se fier trop à ce sentiment d'invincibilité. On reste des animaux quand même assez vulnérables. Donc pour moi, la proie en nous, c'est justement cette part de vulnérabilité. Je pense que c'est important de la cultiver pour dire que, en fait, on n'est pas invincible, on n'est pas les rois de la planète. Il faut commencer à se remettre un peu peut-être en question. Et se dire que sinon on disparaît, la planète continuera à se porter très bien. Donc c'est plutôt nous qu'il faudrait essayer de sauver. Et donc pour ça, peut-être arrêter de se prendre pour les rois de la planète.
Soyons vulnérables, merci beaucoup pour ce dernier message. Merci donc à vous Mathilde Chevalet pour cet échange nourrissant et rafraîchissant. Ne tardez pas à aller découvrir son travail sur son site ou sur les réseaux. Merci bien sûr aussi à Victor et Solène pour vos précieuses chroniques. Merci enfin à Floriane Brémond pour son énergie quant à l'organisation de cette émission et ses indispensables contributions pour sa préparation. Une émission réalisée par Cécile Berga, préparée par Floriane Brémond et Jérémy Frexas, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoir.fr ou les réseaux sociaux. À dans deux semaines pour une nouvelle émission.
Just wanna tell you 101.5 FM.